Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast Edeni autour de la transition écologique. Chaque mois, nous recevons plusieurs personnes qui développent des connaissances dans des sujets d'intérêt général. Et ce mois-ci, nous avons décidé de parler de cultiver son jardin. Cultiver son jardin, c'est forcément quelque chose d'intérêt actuellement quand on parle de plus en plus de nécessité de résilience alimentaire. Quand on parle du thème de la permaculture, un mot qui semble sur beaucoup de bouches qui s'intéressent à la transition écologique, mais est-ce qu'on sait vraiment ce qu'il y a derrière? Est-ce que c'est un concept New Age pour les urbains en quête de nature ou est-ce que c'est une réalité maraîchère? Est-ce que c'est vraiment nouveau depuis l'invention du terme par Bill Mollison dans les années 1970 en Australie, mais lui-même inspiré de Masanobu, c'est pas facile à dire, Fukuoka, au Japon. Donc, autant de questions autour du potager, quelque part, mais pas forcément que le potager, puisque la permaculture parle aussi de société, parle aussi de façon d'être, de façon de vivre et de façon de faire. Alors, est-ce que c'est un véritable paradigme nouveau? Est-ce qu'on a besoin d'une cohérence intégrale ou est-ce qu'on peut commencer à appliquer de la permaculture sur son bout de balcon? Comment vivent les maraîchers? Comment vivent les pépiniers? Est-ce que c'est applicable partout? Qu'est-ce que la permaculture et qui l'applique vraiment? Et puis surtout, en ville, comment on fait? Ben, c'est un peu le sujet dont on essaiera de voir vraiment l'imbrication des termes et des questions qui se posent autour de ça ce soir avec nos deux intervenants que j'ai l'honneur de recevoir, Mathilde Brest, que vous connaissez certainement déjà si vous écoutez les podcasts Edeni, puisqu'elle a animé un podcast autour de la CNV que je vous encourage à aller écouter et qui est mentor pour Edeni, mais aussi maraîchère, ouvrière maraîchère près de Nantes. Elle nous en parlera en se présentant tout à l'heure. Et Éric Lenoir, dont vous avez forcément déjà entendu parler dans les newsletters Edeni autour de son superbe petit ouvrage autour du jardin punk. Et je vous laisserai aussi voir raconter ce que ça veut dire un jardin punk parce que vraiment, si vous n'avez pas déjà vu nos publications à ce sujet, ça vaut le détour, ça fait du bien. Il n'y a pratiquement que du positif à en retirer et ces publications sur les réseaux sociaux sont toujours un délice de poésie et d'apprentissage profond. Merci à tous les deux de nous avoir rejoints et je vais vous laisser vous présenter Mathilde peut-être d'abord.
Merci pour cette introduction, Hélène. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, effectivement, moi, je suis en région nantaise. J'ai 31 ans. Je suis petite fille d'agriculteur, de paysan et assez fière de l'être. Bon, quand je dis ça, j'ai bien conscience que la moitié de la population est petit-fils d'agriculteur. J'ai fait une école de commerce en études. J'ai travaillé ensuite dans l'accompagnement des entreprises sur le développement durable. Et en 2018, j'ai tout plaqué pour partir faire du woofing pendant 8 mois dans des fermes en Europe, avec vraiment l'envie de comprendre le fonctionnement des fermes et de comprendre leur rôle social. Et à mon retour de voyage, donc j'ai découvert Edeni. Comme tu l'as dit, Hélène, je suis devenue mentor, donc j'ai le plaisir d'accompagner des particuliers à Nantes sur les programmes Edeni. Et en parallèle, donc, je suis depuis mars, ouvrière dans une ferme maraîchère en banlieue de Nantes, à Carquefou, qui s'appelle la ferme Accueillir et qui est en bio. Donc, je jongle entre ces deux occupations.
Merci beaucoup, Mathilde. Éric, comment veux-tu te présenter?
Voilà, j'en sais rien, moi. Moi, je suis jardinier, paysagiste de formation. Et puis, il y avait un chemin qui était à peu près tracé pour faire mon métier. J'ai choisi d'en prendre un autre pour ce métier. Voilà, il y avait la grande avenue, puis il y avait les chemins de traverse. Les chemins de traverse, c'était bien plus intéressant. Et plutôt que comment dire, de reproduire ce qu'on m'avait appris à reproduire, j'ai cherché ma propre voie qui me semblait plus en rapport avec mes convictions. Je suis un urbain à la base, un ultra-urbain même. Je suis né dans la petite couronne parisienne, dans une cité HLM. Alors voilà, le béton, je le connais par cœur. Je sais pourquoi je l'ai quitté en courant. Et je passe mon temps, en fait, à essayer de recréer le lien entre ceux qui ne connaissent que le béton ou qui croient connaître la nature et ce que je crois connaître de la nature moi-même. Pour simplifier. Voilà, en essayant de faire mon boulot de la façon la plus responsable écologiquement et socialement parlant.
Et c'est quoi, du coup, ce boulot très exactement au quotidien d'être Éric Lenoir?
Indescriptible. Indescriptible. En théorie, je devrais juste dessiner des jardins. Dans la réalité des faits, je fais essentiellement autre chose. Que ce soit de la pédagogie, que ce soit de l'accompagnement de projets. J'accompagne une ville dans sa transition de tous ses espaces verts et en même temps la création d'une ceinture verte alimentaire notamment, j'organise des choses, j'ai mis des jardins à disposition, enfin voilà, plein de choses qui sont en fait uniquement périphériques en fait.
D'accord, tu as une activité principale de pépiniériste,
c'est l'activité
de paysagiste,
officielle
on va dire.
Pépiniériste et paysagiste, et je fais autre chose aussi beaucoup, enfin... Tout ça est très cohérent. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrête de se définir selon notre métier. Le métier qu'on a sur le papier, ça signifie rien. Enfin, on passe à côté de la transition si on s'arrête encore à ça. Je pense, voilà. Donc
de parler
j'écris des bouquins, je fais des jardins, je reçois des gens, j'accompagne des gens, je me prends des baffes par les paysans quand je dis des choses qui ne leur plaisent pas et je me fais embrasser quand j'ai des choses qui leur plaisent. Je discute avec des élus, je discute avec des scientifiques. J'essaye de faire partie de cette espèce de melting pot actuel où tout le monde essaie de se retrouver pour essayer de trouver des solutions à l'avenir un peu merdique qu'on nous prédit.
Bref, t'es un être vivant, quoi.
Ouais, c'est déjà pas mal.
c'est déjà pas assuré pour l'avenir, donc profitons-en pour le moment de pouvoir se définir comme ça, c'est très bien. Ouais. Donc un être vivant, et effectivement, c'est intéressant ce que tu dis, hein, c'est quelque chose qui nous anime, qui est une conviction profonde aussi chez Edeni, qu'on ne se résume pas à des postes et que c'est surtout pas l'écueil dans lequel tomber, mais au contraire de parler d'activité, même si on pouvait arriver à se passer de travail, de job, de poste, ce serait bien. Bon, là, on est dans l'utopie, mais l'utopie à réaliser, à mettre en place et qui est déjà une réalité, déjà pour beaucoup d'êtres vivants et même d'êtres humains qui ne vivent pas forcément sous une société occidentale, capitaliste, patriarcale, très, très hiérarchisée. Mais même aujourd'hui, on peut s'efforcer de développer des compétences, d'avoir multi-activité et de ne pas se percevoir que sous le prisme professionnel LinkedIn, on va dire, quelque chose qui est facilement définissable, mais de ce qu'on apporte à la société, des écosystèmes dans lesquels on est relié. Et justement, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'écosystème autour de alors cultiver son jardin. Effectivement, on pense à cette fameuse phrase de Voltaire, mais on pense aussi à cette lutte dont on dit qu'elle doit être sociale en plus d'être environnementale pour ne pas se réduire à du jardinage, pour pouvoir penser vraiment ce paradigme, comme tu disais, la ceinture maraîchère, aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce que ça vous évoque à ce propos? Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, de lier justice sociale, justice environnementale? Comment vous voyez votre relation à la terre et à ce que vous faites de manière moins désincarnée, on va dire, dans le fait de cultiver?
Moi, je veux bien rebondir sur le terme de ceinture maraîchère parce que la ferme dans laquelle je travaille est aussi en zone plutôt périurbaine. Hein. Enfin, pour ceux qui connaissent Nantes, Carquefou, on n'est quand même pas très loin. Donc, la plupart de nos clients, sont des urbains hein, qui viennent de Nantes. Moi, ce que ça m'évoque, c'est le besoin d'avoir des lieux de production qui soient ouverts. Donc là, forcément, on parle de circuit court, on parle de... Alors, j'aime pas remettre les mains dans la terre, même si je l'utilise aussi l'expression. Mais il y a plein d'expressions comme ça qu'on utilise en se disant, bon, pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux, donc voilà, je vais garder celle-ci. Mais nous, c'est une ferme à cueillir, donc il y a beaucoup de cueillettes. Donc les gens viennent réellement voir comment poussent les fruits et légumes. Donc il faut être très pédagogique et expliquer qu'une fraise, ça se cueille quand c'est rouge. Bon, elles ne sont pas encore rouges en ce moment, mais on a beaucoup d'enfants là, qui viennent cueillir des fraises bicolores, donc ça nous fait sourire. Donc la ceinture maraîchère et le côté social, bah, c'est complexe, mais c'est le fait de rendre accessible les modes de production. Et puis on en reparlera sûrement plus tard, mais c'est aussi cultiver son jardin à toute petite échelle chez soi. Enfin, c'est une façon de reprendre le contrôle sur une partie de sa vie à travers son alimentation. Et voilà, c'est redonner de la noblesse au métier de paysan et de maraîcher et de commencer doucement sur les chemins de résilience. Ça commence par aller dans les fermes, en fait. Hein. Donc, et les fermes périurbaines, ben, très bien, quoi. C'est ça qu'il faut de plus en plus parce qu'on sait qu'on n'ira pas tous au fin fond de la campagne pour s'installer en agriculteur. Donc, moi, c'est plutôt ça que ça m'évoque.
Ouais, et bah, moi, ça m'évoque aussi la même chose de base, puisque je crois qu'on est à peu près, enfin, tous ceux qui sont des acteurs de ce moment ont à peu près conscience de ça. J'ajoute l'outil politique du jardin et de l'autonomie alimentaire, territoriale et individuelle. C'était Damien Carême, une fois l'ex-maire de Grande-Synthe, dans le Nord, ville en transition, nous a expliqué lors d'une conférence que. Il n'y aurait pas eu le Front populaire s'il n'y avait pas eu les jardins ouvriers. Si les types n'avaient pas eu des jardins pour faire pousser la nourriture dont ils auraient besoin pendant le piquet de grève, ils n'auraient pas pu tenir les piquets de grève. Ils n'auraient pas pu tenir aussi longtemps la grève sans avoir la nourriture parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se la payer puisqu'ils n'étaient pas payés pendant les grèves. Et c'est un vrai outil de liberté, en fait, que cette autonomie alimentaire. On parle de l'habitat, on parle de tout ça, mais manger, c'est pas rien. Et quand on peut s'offrir ça, c'est prépondérant. Et par les temps qui courent, ça paraît pas complètement débile d'avoir la possibilité de se nourrir alors qu'on a l'emploi qui devient de plus en plus précaire pour plein de raisons, hein, que ce soit l'ubérisation des choses ou tout simplement une crise sanitaire qui vient mettre le boxon. Il y a un moment où l'État pourra peut-être plus pourvoir à l'alimentation financière de tout le monde. Donc oui, il y a un moment où la nourriture peut arriver autrement dans les assiettes qu'en s'achetant. Ça, voilà, pour moi, la ceinture alimentaire, elle est là pour beaucoup. Sans compter le lien essentiel qui consiste à... Alors bon, tu as dit les mains dans la terre, je suis assez d'accord avec cette notion qui n'est pas grossière pour moi. Pendant que tu parlais, je me faisais la réflexion, je suis content, j'ai du noir sous les ongles, j'ai l'impression de vivre. Le jour où j'aurai plus de noir sous les ongles, je me poserai des vraies questions. Et comment dire, de ramener justement ça passe par les adultes, mais ça part surtout sur les enfants. Alors, mes enfants dans cette imprégnation de ce que c'est que la nourriture. En fait, la nourriture, c'est pas un truc qui sort d'un frigo ou d'une étagère chez Lidl. La nourriture, c'est quelque chose qui a poussé quelque part, qui a grandi quelque part si on mange des animaux. Moi, je ne suis pas absolument végétarien, et même si j'ai tendance à l'être de plus en plus, pour des raisons principalement écologiques et éthiques, voilà, c'est recréer le lien, quoi. La ceinture alimentaire, c'est ça. C'est ça. Ce que tu manges, ça ne vient pas de nulle part. J'avais rencontré des gens qui travaillaient dans l'industrie agroalimentaire, le gros ennemi, qui, notamment dans le domaine du lait. Une nana qui avait fait son master dans une région très laitière, à Besançon, qui me disait que pendant son master, ils étaient obligés, en tant qu'élèves, d'aller faire de la pédagogie dans les écoles, autour du lait, tout ce qui se fait avec du lait, dans une région très laitière. Et elle me disait que la statistique officielle, c'était que 60% des enfants de moins de 10 ans ne faisait pas le lien entre la vache et le lait dans cette région. Donc, et je pense que la confiture de fraise et la fraise, enfin l'arôme fraise d'un yaourt et la fraise, pour plein d'enfants, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de lien entre les deux. Et un yaourt goût fraise, je ne suis pas du tout convaincu qu'ils imaginent qu'il y a de la fraise dedans.
Ah oui, et puis pour rebondir sur ce que tu dis, nous à Nantes, Pays de la Loire, Loire-Atlantique, on est dans une zone ultra maraîchère, on a quand même des clients qui nous demandent des tomates en janvier-février, hein, tout le temps. Donc, parfois, on est dans son petit monde avec plein d'entourages, on pratique tous l'entre-soi à plusieurs échelles. On a l'impression que tout le monde s'intéresse au circuit court, au bio, et voilà, mais la majorité de la population, je pense, comme tu dis, ne fait pas le lien des saisons, n'a pas en tête peut-être les chiffres sur les suicides dans le monde paysan, les choses comme ça. Et je rebondis sur ce que tu disais, Eric, sur la partie effondrement. Alors, je parle pas forcément d'effondrement dans le cadre de mon travail à la ferme, mais à titre perso, c'est un sujet qui me touche. Et forcément, mes réflexions pendant les longues heures de désherbage de carottes, bah, parfois, ça va sur l'effondrement. Et en fait, la définition, enfin, une des définitions possibles de l'effondrement, c'est un peu ce que tu disais aussi, c'est quand l'État n'est plus capable de fournir des services de base aux citoyens. Et c'est pas l'effondrement à la Hollywood avec, alors ça le sera sûrement à un moment aussi, hein, avec des coupures d'approvisionnement, des coupures d'électricité, des choses comme ça. Mais en réalité, si tu prends la définition de l'effondrement en disant que l'État ne peut plus assurer des services de base comme l'éducation, la santé ou l'alimentation, bah, tu vois l'effondrement différemment, tu te rends compte qu'on est déjà un pied dedans, voire les deux pieds dedans, et que la question de la résilience des villes en transition écologique, c'est plus uniquement alors une utopie ou un délire de bobo, mais que ça prend un sens complètement, complètement différent, quoi.
Merci à vous d'apporter quelques premiers éléments de réponse à une des questions qui était sous-jacente à cette thématique. C'est est-ce que c'est réaliste, est-ce que c'est utopique, est-ce que c'est un truc de bobo privilégié et pas du tout une tendance de fond? Et en réalité, vous y avez répondu en prenant la question sous un autre angle, de ne pas se poser la question si c'est une tendance de fond ou pas, mais plutôt de se poser la question de la nécessité et de ce que ça veut dire. Premièrement, une autonomisation des personnes qui sont capables de faire leur propre nourriture avec la politisation de ce sujet que nous a très bien rappelé Éric Lenoir. Alors, tu es remonté jusqu'au piquet de grève de 36, et je pense qu'on peut remonter jusqu'à bien avant, par exemple, toutes les communautés marronnes pendant la colonisation qui fuyaient les plantations, les cultures dans les colonies esclavagisées pour justement pouvoir avoir leur autonomisation sans les maîtres et en dehors des colonies très surveillées et vraiment encadrées. Et puis, si on remonte encore avant, je pense par exemple à certains ouvrages d'anthropologie comme Daniel C. Scott autour d'Homo Domesticus ou plus récemment Mon Ishmael de Daniel Quinn aux éditions Libres, qui nous apprend justement qu'il y a eu une rupture fondamentale dans la société à partir du moment où on a mis la nourriture sous clé. Avant, tout le monde cultivait sa propre nourriture, était chasseur-cueilleur, et même pendant cette période des chasseurs-cueilleurs, il y avait déjà de l'agriculture, évidemment, parce que les premiers homo sapiens, c'était pas stupide, ils savaient très bien qu'en replantant quelques graines, des produits qu'ils aimaient le plus, eh ben, ils allaient avoir quand ils reviendraient après leur nomadisme sur place, eh bien, ces cultures qui auraient prospéré. Donc ça n'a jamais été totalement opposé là-dessus, mais en revanche, il y a eu un moment, une coupure où, avec la création des premiers États ou des premières sociétés, la mise sous clé de la nourriture qui s'est fait du coup, qui est devenu un échange et un peu plus proche de nous, et c'est le sujet du livre, entre autres, d'Éric sur le jardin punk, c'est hallucinant de se dire qu'on a adopté le modèle de la pelouse pour ces maisons, alors qu'avant, tout était fertile et était sujet soit à la biodiversité naturelle, on va dire, soit à la biodiversité construite autour de petits jardins maraîchers. Et c'est sous l'aristocratie, avec cette volonté de pouvoir montrer « nous, on n'a pas besoin de cultiver ces terres parce qu'on en a d'autres qui le font pour nous » que sont venues, ont été créées ces fameuses modes de pelouse dont on hérite encore aujourd'hui et dont la culture est diffusée toujours aussi fortement et aussi stérilement par les émissions de télé. Je pense notamment par exemple à Desperate Housewives, où ils sont tous devant leur jardin avec les pelouses parfaites, et puis les jardiniers qui n'ont de jardin que le nom, parce qu'en fait ce sont des avanceurs, des promeneurs de tondeuses, on va dire, si on peut prendre cet exemple. Éric, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces pelouses maudites là? Arrêtez de maltraiter vos pelouses, bon sang.
Ouais, j'ai lancé je ne sais pas combien de hashtags sur les réseaux sociaux sur la thématique de range ta tondeuse, jette ta tondeuse, pose ta tondeuse et va boire un coup. Enfin bon, il y a plein de choses à faire d'autres avec une tondeuse que de la passer, c'est clair. En termes d'érosion de la biodiversité, c'est une catastrophe, une pelouse tondue. C'est aberrant à tous les niveaux. J'ai arrêté de la passer chez des clients quand quand on m'a dit bah oui, mais là, c'est pas parce qu'il y a des pâquerettes et du trèfle en fleurs que vous pouvez pas passer. Je suis désolé, vous avez l'apiculteur à côté qui vient de perdre 200 ruches. Je vais pas passer la tondeuse sur vos pâquerettes. Enfin, non, c'est même pas concevable pour moi. Et on parle que d'abeilles domestiques, je parle même pas de toute la biodiversité réelle, parce que ça aussi, c'est une belle foutaise de toujours baser la biodiversité sur les abeilles. Non, c'est ça, c'est plus de sensibilité à la sécheresse, plus de sensibilité au froid, moins de captation de l'hygrométrie atmosphérique pour la rosée ou pour tout simplement les brumes. Enfin bon, c'est une aberration totale. C'est l'utilisation de produits, ou bien qui vont utiliser du pétrole, c'est une tondeuse thermique, ou bien d'électricité. Alors, c'est super, hein, on peut être chez comment ça s'appelle, un fournisseur d'électricité qui fait que du renouvelable. Enfin bon, monter des éoliennes géantes pour pouvoir alimenter des tondeuses.
La meilleure électricité est celle qui n'est pas utilisée, on est d'accord.
Exactement, il y a moyen d'utiliser l'électricité à autre chose et on peut utiliser une tondeuse raisonnablement.
Et qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent « Oui, mais si je ne coupe pas, c'est les arbres qui vont arriver et puis bientôt, je ne pourrai plus du tout avancer dans mon jardin. Il y aura des arbres partout, ce sera chaotique. »
Je suis content quand j'en ai qui me disent ça. C'est déjà qu'ils ont un peu compris quelque chose au cycle du vivant. Ils ont compris que si on faisait rien, c'était effectivement les arbres qui finissaient par revenir. Je leur dis « Faites comme moi, prenez une faux ou un sécateur et puis vous passez une fois dedans par an et vous enlevez le gros de ce qui est enlevé et ça va très bien. » Ça va très bien, moi j'entretiens tout seul 1,7 hectare en y passant 3 à 5 jours par an avec une faux et j'ai une tondeuse débroussailleuse pour faire des allées dedans. Donc non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est la sensation de propre, la sensation de l'image qu'on va restituer aux autres. Il y a une part de compétition esthétique, il y a une part de démonstration d'une forme de réussite sociale par une... Il y a tout un imaginaire en fait à complètement recréer. Alors vous êtes à Nantes, une ville des utopies, hein, c'est plutôt, enfin Mathilde est à Nantes, une ville des utopies, avec Sandrine Rudeau, avec les Utopiales, avec plein d'autres choses. Il y a aussi, je pense qu'il faut réensemencer l'imaginaire aussi de ce qu'on peut faire à la place d'une pelouse. Il y a une nana c'était au nord des États-Unis ou au Canada, je ne sais plus, qui cherchait à s'installer comme maraîchère, elle ne trouvait pas de terrain. Elle a fini par rentrer dans un lotissement et d'aller voir les gens en disant « Est-ce que je peux cultiver devant chez vous ?» Et les gens ont concédé que c'était vachement plus intéressant que de payer un paysagiste à venir tondre des pelouses que d'avoir quelqu'un qui allait leur fournir des légumes toute l'année. Voilà. Et elle cultive, elle tire bénéfice d'une partie de la production et elle paye les gens en leur filant une partie de sa production. Un exemple parmi d'autres. Voilà une bonne raison de poser une tondeuse.
Et quand tu tiens ce genre de discours, tu observes encore des gros freins où la plupart des gens se disent « Ah oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé, et bah, à partir de maintenant, je ne tombe plus ma pelouse. »
Alors ça, c'est bien, il y en a pas mal qui pensent à ça, il y a beaucoup de gens qui ont peur. Là, avec la maladie de Lyme, c'est « Oh là là, j'ai poussé l'herbe, je vais attraper la maladie de Lyme. » J'ai l'impression qu'il y a des tiques qui attendent autour de toutes les maisons d'avoir des herbes hautes pour pouvoir se jeter à la gorge des gens. C'est pas si simple que ça. Enfin, bon. Le principal vecteur des tiques, ça reste chevreuil. Bon, je pense pas qu'en ville ce soit un gros problème. Et en ville, on a par contre beaucoup plus besoin d'avoir de la biodiversité avec des petites fleurs, des champs qui vont permettre à tous des petits insectes qui sont pas l'abeille domestique de venir bouffer, qui vont pouvoir polliniser des espèces qui peuvent être pollinisées que par eux et qui vont permettre la réimplantation de pas mal d'espèces. Qui sont prépondérantes, puisque plus on a de diversité, moins on a de chance d'avoir une surpopulation de quelque chose. Il y a un proverbe arabe qui dit que le trop de quelque chose est un manque de quelque chose. Et c'est tout à fait ça. Enfin, pourquoi est-ce qu'on a des pandémies, pourquoi on a des maladies qui arrivent comme ça aussi fort? C'est parce qu'on vient exercer une pression de plus en plus forte sur un milieu diversifié et qu'on ramène des choses dans un monde qui n'est absolument plus diversifié, en termes de quantité de microbes, de quantité d'animaux, de... Enfin bon, c'est un manque d'humilité en général. Alors des freins, oh, il y en a toujours. Il y a une ville qui s'était remise à tondre sa pelouse parce qu'il y a notamment, je dis bien notamment, le club de Tai Chi qui arrive en disant « Oh là là, mais vous ne tondez plus la pelouse, vous allez faire fermer le club de Tai Chi parce que plus personne ne peut faire du Tai Chi dans une pelouse aussi haute. » Voilà.
On s'invente là, les freins qu'on a envie de s'inventer aussi. Hein. Oui,
on entend des choses comme ça. On entend des choses comme ça. Et pour reprendre un copain qui s'appelle Sébastien Lacomblé, qui est intervenu avec moi il y a une semaine ou deux au rendez-vous du futur, lui, il dit qu'il faut vraiment se poser la question de la démocratie participative, parce que des collectivités qui sont obligées de séduire les gens pour pouvoir être réélus au bout de 6 ans sont obligées de concéder des choses qu'il ne faudrait pas concéder. De dire, bah non, c'est comme ça, on change, et si on veut changer sur la durée, ça change maintenant, ça ne change pas tous les 6 ans, en essayant de faire des ronds de jambes pour pour pas être dégagé au bout de 6 ans par l'opposition qui dit, regardez, ils ont laissé la ville dégueulasse, parce que ce n'est pas tendu. Et regardez, vous allez tomber, il y a des feuilles par terre, c'est sale.
Ah, ça, on l'a souvent aussi sur l'inclusivité, sur le fait que pour les vélos, que pour les poussettes, que pour certaines personnes en fauteuil roulant, on a besoin d'avoir des allées qui soient nickel et non pas avec des feuilles tombées. C'est là où on s'aperçoit la nécessité de penser en intelligence collective et de lever un maximum de freins en amont, aussi culturels. Que l'inclusivité n'est peut-être pas forcément par ça, et c'est peut-être pas le problème majeur qui nous attend. Tout en le prenant et en ne le dénigrant pas forcément. Hein. Ce qui est important, je pense, c'est de toujours pouvoir garder ce lien entre les gens et ce lien que la nature elle-même est capable de faire. D'ailleurs, vous en parliez tout à l'heure, hein, vous parliez du lien au sens premier, donc entre les gens, de rassembler, je pense par exemple à Ophélie, ta mère nature, qu'on a reçue sur ce podcast aussi, qui organise des ateliers autour de l'agriculture urbaine, du jardin, de faire planter, de faire ses bombes de graines ou de la green guérilla avec des jeunes des quartiers d'Aubervilliers et qui sont bluffants de se réapproprier comme ça, encore une fois, de faire ce lien avec la nature qui les environne, même en ville, avec la green guérilla. Et puis, vous parliez aussi du lien dans le sens figuré, le lien qu'on a oublié entre la vache qui produit du lait, et le chocolat au lait ne provient pas des vaches marrons, contrairement aussi, tu parlais d'une étude comme ça, mais aux États-Unis il y avait ça, non Mathilde, tu l'avais lu aussi ça?
Non, je pensais à la couleur des vaches. Je me disais que ce n'était pas les vaches violettes, là, les vaches Milka.
Non, l'étude est terrifiante. C'est, je crois que c'est 30% des Américains interrogés sur cette question qui pensaient vraiment que les vaches, c'était des vaches marrons qui donnaient le lait chocolaté.
Ah oui, d'accord.
Des adultes, hein. C'est juste terrifiant. C'est absolument terrifiant. On en est là. Mathilde, je pense pas que tu me donneras tort là-dessus. Il faut vraiment s'attaquer aux mômes, parce qu'il y a des adultes qui sont perdus.
Et puis en t'attaquant aux mômes, bah en fait tu touches les parents derrière. Hein. C'est le travail de déconstruction, et nous c'est ce qu'on voit aussi hyper souvent à la ferme. Il faut aussi, je pense, dépasser assez vite le côté chiffre choc et petite pointe de désespoir que tu peux avoir quand quelqu'un te demande des tomates en mars, hein, ça reste un peu un crève-cœur, ou comme quand tu vois des potagers de particuliers qui sont labourés avec 50 cm de profondeur. Moi ça me fait toujours mal au cœur physiquement à chaque fois que je le vois, quoi. Mais après vous parliez d'utopie, et en fait je me dis qu'il y a des choses, si on a la chance d'arriver à voir un peu plus loin que les problèmes, si on a la chance d'arriver à se projeter en 2030 pour tout un tas de raisons, parce qu'on est né dans des milieux politisés ou éduqués, si on a la chance de pouvoir faire vivre ces utopies en fait déjà en chacun de nous, ben pour moi c'est hyper important de les partager, de les inspirer, et du coup bah aussi bien ce que tu fais toi Eric que ce que nous on peut faire sur la ferme. De une, c'est ultra politique, et de deux, c'est ultra important de faire arriver tout ça dès maintenant, quoi, de montrer que oui, la pelouse, ben oui, lâchez votre pelouse, c'est clair, et puis pendant ce temps-là, allez faire un troc de graines avec vos voisins, allez lire sur la biologie des sols, écouter un podcast, enfin, utiliser ce temps libre pour autre chose, allez faire de la cueillette à la ferme, il y a plein de choses que tu peux faire quand tu te simplifies la vie au potager, quoi. Mais du coup, ce que je voulais dire aussi sur la partie permaculture et ferme, c'est que moi, je m'interroge beaucoup sur la part de ce qui a été, pas réinventé, mais ce qu'on met aujourd'hui dans permaculture, c'était une des questions. Hein, et moi, c'est la question qui me trotte en tête tout le temps. Je me dis, mais finalement, mes grands-parents, qu'est-ce qu'ils en penseraient de ça? Et puis, je le sais déjà, avec leur bon sens paysan, voilà, ils seraient en train de hausser les épaules et me dire, bah oui, bah, bien sûr qu'on le faisait. Donc, il y a toute cette réflexion qui est permanente, et j'ai pas de réponse sur est-ce que la permaculture a amené quelque chose de nouveau ou pas. Enfin, je n'ai pas la prétention d'avoir une réponse. Mais en tout cas, en commençant un job sur la ferme, je me suis rendu compte de toute la complexité qu'il y avait derrière ce terme permaculture, le côté politique, le côté holistique, qui tient énormément à cœur au collectif Edeni aussi. Donc c'est aussi pour ça que j'en parle, de ne pas avoir juste un aspect ou un principe, mais d'arriver à se dire que chaque partie séparée de la permaculture forme plus que cette addition, forme quelque chose qui fonctionne et qui ne fonctionnerait pas sans toutes ces parties séparées. Et pour prendre des exemples très concrets sur la ferme, maraîchage et permaculture, c'est quelque chose sur lequel on nous questionne toujours. On nous dit « Ah, vous utilisez des bâches en plastique, pourquoi vous ne mettez pas de la paille ?» Donc il y a vraiment ce changement d'échelle entre cultiver son jardin, faire son potager, et ensuite faire vivre 3 associés sur une ferme maraîchère sur 3 hectares. Donc on n'est pas loin de la micro-ferme, c'est quand même une petite surface. Comment on applique certains principes de la permaculture, parce qu'on ne va pas parvenir dans un premier temps à tous les appliquer. Comment du coup on les lie entre eux, et comment on les hiérarchise, ces principes de permaculture, c'est une réflexion permanente. Et par contre, ce que je voulais dire, c'est que cette ferme, elle se revendique pas forcément comme permacole, donc ça c'est important. Et je pense qu'une des raisons, c'est aussi parce qu'il n'y a pas un lieu de vie. Donc contrairement aux fermes que j'ai pu voir en woofing, on est vraiment sur la production pure et on n'a pas de lieu de vie sur la ferme. Donc pour moi, ça enlève aussi un gros aspect de la philosophie permacole.
C'est intéressant parce que vous parlez de réconcilier les imaginaires avec le monde manuel, le monde paysan, de pouvoir réhabiliter et de se dire fier d'avoir justement de la terre sous les mains, parce que ça devrait être du bon sens, de l'autominimisation, de savoir quoi faire de ses 10 doigts et de produire sa propre nourriture. Et de l'autre côté, parallèlement et en complémentarité de cette réhabilitation des esprits et de l'incarnation de l'utopie qu'on en parle tous et que les besoins essentiels deviennent vraiment essentiels, il y a le pragmatisme de « ok, and so what ?» concrètement, comment ça se passe, pourquoi on a de la bâche en agroécologie. Et du coup, ça va me permettre de vous poser une question qui a été mise dans le chat. Est-ce que vous pensez qu'une agriculture agroécologique est possible pour nourrir toute la France? Donc cette personne nous dit de souvenir l'étude menée par la ferme du Bec-et-Loin prouvait que ce n'était pas transportable pour nourrir toute la population nationale. Alors sur cette thématique du pragmatisme et du changement d'échelle, Eric, est-ce que tu as des éléments de réponse à nous apporter?
Alors, j'en répète moins que Mathilde, mais on n'arrivera pas à nourrir tout le monde avec les pratiques permacoles si on n'a pas adapté notre alimentation. En ayant recours à la viande comme on a recours à la viande ou au poisson, c'est pas pensable. Si on remplace réellement nos habitudes alimentaires, si on transforme l'industrie agroalimentaire qui est entièrement basée sur le blé, certains considèrent qu'il s'est basé sur le pétrole, ce qui fait que le blé rentre dans la chaîne à plein de niveaux, le blé produisant aussi bien le sirop de glucose qui va servir au sucre, qui va servir à sucrer beaucoup d'aliments, que produire de la paille pour le bétail, que produire pas mal de choses. Si on arrive à se séparer de l'habitude du blé, par exemple, d'arrêter de tout faire tourner autour du blé, d'avoir plus de légumineuses, plus de légumes, il n'y a pas du tout de raison qu'on ne puisse pas nourrir la planète avec des versions permacoles des grandes cultures. Ça va être compliqué. Aujourd'hui, on ne peut pas. Voilà, c'est simple. Aujourd'hui, on ne peut pas dans l'état actuel du marché et des habitudes alimentaires des gens. Il suffit de voir quand on ramène dans une... il y a quelques semaines, j'ai rejoint une copine grévistes de la faim devant l'Assemblée nationale, deux copines grévistes de la faim devant l'Assemblée nationale pour le climat. Et on a eu une longue discussion avec un des flics en civil qui était venu leur faire comprendre qu'il fallait qu'elles aillent un peu plus loin. Et le type était là, il nous expliquait, en pensant avoir une conscience écologique relativement bonne, il expliquait qu'il allait faire un scandale dans la cantine de ses enfants parce qu'on allait imposer une journée végétarienne. Voilà. Voilà les freins aujourd'hui. C'est pas la technique, c'est les humains. C'est l'économie qui est fondée sur quelque chose. Alors, je travaille sur une usine agroalimentaire. Je suis vraiment chez l'ennemi, je sais pas le dire. Pour rendre le site plus propice à l'accueil de la biodiversité. Parce que sur place, il y a une super équipe de salariés qui ne supportent pas d'avoir un parking tondu comme lieu de travail et qui estiment qu'on peut faire quelque chose là où ils bossent quand même, à défaut de quitter leur boulot. Et je ne sais plus où je voulais en venir. Oui, enfin, là-dedans, il y a 100 000 yaourts à boire qui sortent tous les jours. 100 000... Non, pardon, ce n'est pas tous les jours. Je me demande si ce n'est pas par heure. Enfin, qui les achète? c'est pas nous qui les achètent. Ces gens-là, on leur prend le yaourt en disant il ne faut plus manger comme ça. C'est pas seulement les 250 salariés de cette usine qui vont déglinguer, hein. C'est autre chose. D'ailleurs, 250 salariés dans cette usine qui en faisait vivre presque 2000 à une époque où ils produisaient 100 fois moins.
Ouais.
C'est tout un système à repenser, ouais. Et il faut commencer par le début, c'est-à-dire réapprendre aux gens à manger.
Ouais.
Réapprendre aux gens à manger, et ça c'est un des grands cadeaux du premier confinement, c'est que des gens ont compris qu'ils pouvaient cuisiner. Des gens par ennui ou par manque de moyens se sont remis à cuisiner, ils se sont rendus compte qu'on pouvait manger à peu près correctement pour moins cher qu'ils le pensaient, enfin que ça pouvait être bon. Ça pouvait être autre chose que ce qu'on leur fournissait en leur disant « c'est ça la nourriture pour pauvres. C'est ça qui va bien nourrir tes mômes, c'est ça qui a le nombre de calories et les minéraux nécessaires pour que ton môme grandisse bien. » Mais ça, c'est une éducation de fou. Et c'est pour ça que je repars encore sur le sujet des mômes. C'est que les parents sont très difficiles à déshabituer parce qu'ils ont été conditionnés par des années de marketing, des années de publicité, des années de messages, même gouvernementaux, pour favoriser l'économie et la consommation plutôt que la qualité d'alimentation, et qu'on aura beaucoup de mal à les désintoxiquer.
Mmh.
Alors que les mômes, on peut encore faire quelque chose. Et quand on apprend, je participe à un truc qui s'appelle l'école comestible, qui était lancé par Camille Labro, qui est chroniqueuse gastronomique, journaliste gastronomique dans le M du Monde, qui agit auprès des mômes pour leur apprendre à cuisiner des choses, qui viennent parfois des grands chefs, de la graine à l'assiette, mais les mômes sont ravis et ils mangent des trucs que les parents n'arriveraient jamais à leur faire manger. On leur sert la même chose à la cantine, ça ne marche pas.
Mm.
Donc il y a un véritable travail de fond. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de cours de cuisine à l'école? Pourquoi est-ce que c'est... Enfin, qu'est-ce que ça a impliqué dans nos façons de nous comporter en tant que citoyens, de ne plus avoir de cours de cuisine ou de couture à l'école? Aussi bien pour les mecs que pour les nanas, il faut arrêter aussi de faire ça. J'ai d'acheter dans une broque un bouquin de cours d'économie domestique de 1914. Ah, les femmes, elles savaient tout faire. Surtout bien se tenir à carreau, soyons clairs. Mais on sortait avec ça, on savait faire tourner un foyer sans avoir besoin d'aller dans un commerce. On pouvait aller dans un commerce pour acheter des matières premières qu'on n'était pas capable de produire, le sel, la farine, éventuellement la levure, et le reste, comment on cultive un jardin, comment on savait faire des choses. Certes, on est vachement plus nombreux, et ça va être un petit peu difficile de trouver en milieu urbain les zones cultivables, mais on peut quand même améliorer les choses.
Comme tu parlais de cette initiative de demander à des gens qui eux-mêmes n'auraient pas la volonté de cultiver leur jardin, de le faire pour eux, pour essayer d'aller trouver des zones, on est capable de le faire aussi, comme disait Mathilde, avec son petit jardin. Moi aussi, je vais chez mes parents, parce que j'en ai pas non plus à Paris, pour aller cultiver mes trois buts en perma et faire mes petits essais. Donc c'est vrai, c'est ce lien direct du faire, quoi, dont tu parles même avec les enfants.
Il y a aussi un point par rapport à la capacité de nourrir tout le monde par des méthodes permacoles. Moi, le permaculture, c'est pareil. C'est un concept, c'est bien, c'est très joli, c'est holistique, il y a plein de choses dedans. Ça reste réducteur et je préfère vraiment garder l'idée de bon sens dont parlait Mathilde, qu'il soit paysan ou pas, mais le bon sens avant tout. Et c'est vrai que si on n'écoute que le bon sens, on arrive vite fait à la permaculture et aux méthodes qui sont promues par la permaculture. Mais voilà, on n'est pas obligé de se fermer là-dessus. Il y a l'association Forêt Gourmande avec Fabrice Desjours qui fait la démonstration qu'en fait, en multipliant les strates de production, on augmente très considérablement la capacité à produire des calories et des vitamines à l'hectare. C'est le principe.
Est-ce que tu peux définir pour les personnes qui nous entendent et qui n'auraient pas forcément cette notion de strate, oui, ce que tu entends par là?
Quand on prend un champ de blé, pour reprendre que le blé, on a un niveau de production. C'est le niveau au sol et on fait de l'agroforesterie, on va avoir le sol plus les arbres qui sont productifs. Éventuellement, une oléagineuse. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques décennies, les oléagineuses étaient principalement issues d'arbres à noyaux et d'arbres à fruits secs, et non pas issues du colza, du tournesol ou de je ne sais quel arachide venu de l'autre bout du monde. Donc, on produisait l'huile déjà très, très différemment autrefois. C'est beaucoup de calories de l'huile. C'est beaucoup de calories des fruits secs. Et si on met des arbres fruitiers dans un champ, ça peut être aussi très, très nutritif. Si on réapprend à manger des pommes, si on réapprend à manger des poires, des abricots et tout ce qu'on veut. Et en intermédiaire, eh ben, on peut avoir des plantes grimpantes comme la vigne. Les Romains cultivaient la vigne dans des arbres. Il y avait des prés avec des moutons au sol, des arbres fruitiers et la vigne qui grimpait dedans. Ou des arbres fruitiers, notamment des arbres à noyaux, et la vigne qui poussait dedans. Les trognes, les arbres à feuilles comestibles, comme le tilleul, qui est capable de produire des quantités de nourriture. Sur un tilleul qu'on rabat tous les ans, sachant qu'on peut manger toutes les feuilles comme un légume, il faut imaginer combien de personnes on peut nourrir. Enfin, voilà, c'est vraiment repenser la capacité aussi de telle surface à produire la nourriture. Mais oui, de toute façon, ça va être difficile. Je peux même rajouter encore un écueil, histoire d'annoncer les mauvaises nouvelles. Quand on écoute des gens comme Marc Dufumier, qui sont des grands spécialistes des sols, notamment du compost, on sait qu'on va avoir des pénuries en phosphore, dont on ne sait pas comment est-ce qu'on va s'affranchir. Et le phosphore est prépondérant pour faire pousser des légumes, des plantes, quelles qu'elles soient. Et on en perd. On en perd, on a de moins en moins. Et les ressources, c'est une ressource moyennement renouvelable. Et c'est un vrai questionnement. Donc, ouais, faut penser différemment.
Et les pénuries dont tu parles, en plus, là, vous êtes peut-être au courant des pénuries sur certaines matières premières qui arrivent, alors qu'on met un peu sur le dos du Covid, mais il y a aussi plein d'autres raisons, hein, géopolitiques, qui arrivent là dès la rentrée. Ça va pas trop tarder, hein, les certaines ruptures d'approvisionnement. Mais du coup, pour rebondir sur ce que tu dis, Eric, par rapport à cette question là de d'un des auditeurs sur la capacité à nourrir. Moi, c'est plutôt par rapport à la capacité à nourrir de l'agriculture biologique que je peux apporter des éléments de réponse, parce que c'est ce qu'on me demande aussi dans mon cercle. Oui, le bio, c'est bien, mais voilà, on ne va pas y arriver et tout. Et je te rejoins complètement. Il faut déjà peut-être arrêter de gaspiller un tiers de ce qu'on produit en termes de système, ça serait bien. Il faut aussi qu'au niveau politique, ça joue le jeu. Parce que quand on voit la réforme de la PAC et à quel point ça met à poil tous les agriculteurs bio, bah en fait, on a essayé d'alerter. Il y a eu une grève de la faim de Pierre Larouture-Rouge, je crois, si je ne dis pas de bêtises, par rapport à la PAC. Donc, ça commence à bouger. Mais là aussi, en fait, tout est lié. Tu parles de déconstruire les croyances des adultes via l'éducation, via une ferme accueillir à Carquefou. Ça peut commencer par là. Et petit à petit, on commence petit, mais on va dans des sujets ultra politiques, comme arriver à comprendre la PAC, à militer contre cette réforme. Et à se rendre compte de plein de choses, du fait que le budget alimentaire des Français, la part de l'alimentation dans le budget des Français a dégringolé aussi. Et moi, ça m'amène plein d'autres utopies, utopies en fait, en me disant, mais pourquoi pas, il y a les chèques énergie là, qui permettent aussi aux revenus modestes de payer une partie de leur facture énergétique. Pourquoi pas un chèque alimentaire universel ? C'est des choses dont on entend parler aussi régulièrement dans les programmes politiques, enfin, voilà, ça revient souvent, pas assez souvent à mon goût, mais je trouve que c'est une idée qui est au moins à creuser. Comment on donne à tous l'accès à une alimentation digne ? Parce que y a ces deux visions, il y a le côté individuellement faire son jardin, mais comme tu le dis, ça suffira pas, je pense, pour... Enfin, tu peux pas être totalement en autonomie sur 100% de tes calories. C'est pour ça que là aussi, petit écueil rigolo, quand la plupart des gens disent « oui, on vise l'autosuffisance », de quoi on parle ? On vise de l'autosuffisance fruits et légumes ou la partie céréales ? Sachant que fruits et légumes, c'est déjà génial si t'arrives à l'autosuffisance fruits et légumes, chapeau. Hein. Mais du coup, voilà, il y a la partie peut-être un peu moins naïve où là, il faut... faire collectif, il faut aller voir les fermes, il faut soutenir les revenus dignes des paysans. Il faut comprendre qu'il y a une baisse de rendement dans l'agriculture biologique parce que il y a moins de substances utilisées, autorisées, mais il y en a quand même. Hein. Il y a des engrais et des pesticides qui sont utilisés en agriculture bio. Mais que le problème, il est beaucoup plus complexe que ça et qu'il est surtout au niveau de la vision qu'on en a et au niveau de la vision que les politiques en ont. Et je pense que ça arrange beaucoup de monde de dire non, l'agroécologie et la bio, ça suffira jamais à nourrir le monde. En réalité, il y a aussi des contre-expertises. Et je crois que c'est un docu qui s'appelait « We Feed the World », ça me revient maintenant, mais qui date d'il y a presque 10 ans. qui parlait du gaspillage et qui parlait aussi de certaines études européennes qui montraient qu'on produisait largement assez de nourriture pour nourrir tout le monde déjà, quoi. Et après, on part sur d'autres débats comme les OGM, les faux arguments, fausses idées de les OGM vont aider à réduire la faim dans le monde. Peut-être qu'avant d'en arriver à ces extrémités-là, on peut parler de gaspillage, on peut parler de pourquoi est-ce qu'il y a des agriculteurs qui n'arrivent pas à revendre leur ferme, pourquoi il n'y en a pas assez qui s'installent, alors qu'on sait que dans les 10 ans à venir, il y a un tiers des agriculteurs qui vont partir à la retraite et que du coup, la plupart des fermes ne trouvent pas de repreneurs. C'est vraiment, encore une fois, le lien cultiver son jardin, puis après cultiver le jardin collectif, quoi. Cultiver le jardin... Jardin France, ça fait très nationaliste de dire ça, du coup, j'aime pas du tout, mais cultiver le potager collectif, quoi, à l'échelle de sa ville, à l'échelle de son bassin géographique. C'est aussi quelque chose qu'on dit beaucoup chez les Denis. On commence par soi, on se change soi, et ça aussi, en permaculture, c'est un des principes intéressants. Hein. On est le changement... premier, plus important, et puis après tout de suite passer sur du collectif et là aussi sans avoir besoin de réinventer la roue. Il y a les incroyables comestibles qui sont absolument géniaux, quoi. C'est tout est en open source, ça va de pair avec les villes en transition. Vous allez voir vos voisins, hop, t'as quoi comme graines, moi j'ai ça, on fait un bac en palette, on s'y met, et ça commence par des choses aussi simples et aussi gratifiantes que ça, et c'est là qu'on a l'impact, et on peut même avoir de la terre sous les ongles en faisant ça, donc c'est le moment d'y aller, quoi. Je pense pas qu'on ait le temps d'attendre encore 10 ans, en fait, hein, sur ces sujets de souveraineté alimentaire.
En effet.
D'ailleurs, souveraineté, c'est un drôle de nom. Je constate beaucoup pour le paysage. Je sais pas si on le constate autant. Il y a quelqu'un qui met un message par rapport à la Belgique en disant que les terres paysannes sont impayables. Je pense qu'impayables, c'est pour dire qu'elles sont trop chères. Il y a un aspect patrimonial global qui est très important et qu'on va trouver deux exemples, le Japon et la Grande-Bretagne. Ce sont des pays où les paysages sont très préservés et ce sont deux monarchies. Parce que ça appartient à quelqu'un qui en prend soin et qui le transmet des générations après, à d'autres générations. On a des gouvernements de managers qui se relaient les uns derrière les autres, qui n'ont rien à carrer en fait, du patrimoine qu'ils vont transmettre. Et le patrimoine agricole en fait partie. On a saccagé le patrimoine agricole, on a saccagé le territoire d'un point de vue paysager, et le territoire agricole dont on dispose aujourd'hui est un territoire absolument pas résilient. C'est pas quelque chose qui a été géré pour le long terme parce que personne n'en a pris soin. Pour côtoyer, j'ai des clients parfois qui sont des gens très très riches, des clients qui sont parfois des aristocrates. Je vois comment ils prennent soin. Aujourd'hui, il y en a plein qui sont en train de faire de l'agroforesterie chez eux, alors qu'autour, c'est de la grande culture dégueulasse, mais ils sont en train de convertir toute leur terre en bio, etc., parce qu'ils ont compris, eux, que le patrimoine à transmettre, c'était ça.
Parce qu'ils ont les moyens aussi.
Ben, ils ont les moyens de transformer le truc, et le paysan local ne va pas forcément l'avoir. Mais si les administrateurs du pays avait une politique agricole qui était dans cet état d'esprit-là, mais ça changerait tout. Parce que là, on dit qu'il y a des incitations à passer en agroforesterie, mais enfin bon, les mecs, il faut qu'ils se battent bec et ongles pour pouvoir y parvenir, notamment contre les chambres d'agriculture locales qui leur disent « Non, t'engouffre pas là-dedans, c'est une grosse merde. »
On n'a pas une culture des communs.
Non, 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 non. Et puis, ça va même au-delà de ça. C'est-à-dire que, vraiment, on a une gestion commerciale des terres. On n'a plus de gestion patrimoniale des terres, que ce soit en patrimoine individuel ou en patrimoine commun. Il y a très peu de paysans, qui sont propriétaires de leurs terres et qui font attention à ce qu'ils transmettent, mais il n'y en a quand même pas tant que ça. Il y a beaucoup de gens qui sont en fermage. Il y a beaucoup de très, très gros propriétaires qui regardent juste leur livret de compte et qui ont une vision uniquement court-termiste de leur exploitation agricole, qui gèrent une entreprise agricole uniquement comme une entreprise. Ce qu'on peut comprendre, enfin, dire le but d'un entrepreneur et de quelqu'un qui crée une entreprise, c'est de gagner de quoi vivre confortablement, mais qui ont complètement négligé tout l'aspect transmission d'un truc qui se gère sur du très très long terme, en fait. Et où la bonne gestion, ça ne consiste pas à tout déboiser, à virer toutes les haies, à faire en sorte d'avoir le plus de surface possible. C'est pas aussi bête que ça, malheureusement. Il y a eu une étude qui avait été faite, je crois que c'est en Bretagne, qui montrait qu'il y avait à peu près 80 à 90% des paysans qui voulaient s'orienter vers des méthodes plus respectueuses de l'environnement, éventuellement le bio, pas obligatoirement, mais notamment le bio, mettre moins d'intrants, enfin, vraiment dans le sens dont on parle tous, là, où on est tous d'accord là-dessus, hein, c'est un peu facile, 80 à 90%. Mais les 10% restants sont ceux qui détiennent 80 ou 90% des terres, qui sont administrateurs des chambres d'agriculture, du crédit agricole, comment on appelle ça ? Ah, j'ai des coopératives agricoles et tout ça. Et donc, bloque tout.
J'ai tout. Ouais, en effet, il bloque tout, mais justement, est-ce que ce ne serait pas là le problème de la propriété privée et non pas justement sa vision en tant que solution, parce qu'il y a aussi de grands propriétaires terriens qui ont fait n'importe quoi, qui font de la chasse à cour, qui vont tout détruire pour construire une piscine, château, spa, etc., faire de l'investissement, alors qu'une gestion des communs vraiment en reprenant, mais évidemment ça demande un paradigme beaucoup plus important, parce que ça demande de la formation sur plusieurs générations, de redécouvrir ce que sont ces communs, qu'est-ce qu'on a envie de protéger autour de soi, et qu'on nous donne le pouvoir politique à échelle locale. Parce que forcément, quand les décisions sont prises à plusieurs dizaines, centaines, parfois milliers de kilomètres de la zone en question, bah, il n'y a pas du tout le même intérêt que quand on vit sur place. En fait, pour moi, la différence serait plutôt de revenir à des communes autogérées où on a des espaces dans lesquels on vit et donc on a tout intérêt à les protéger, à ce qu'il n'y ait pas de toxicité pour nos enfants, pour nous-mêmes, à ce qu'il y ait de la biodiversité, à ce que ça nous permette de nous nourrir et d'en être résilients en même temps. Et d'autant plus, il y a une remarque de Yann aussi sur laquelle j'arrivais, que la terre ne nous appartient pas. Et du coup, est-ce que ce ne serait pas un chiffre totalement inverse de nous dire, c'est vrai qu'on nous vend souvent, même sur, par exemple, l'isolation des combles, etc., que le fait d'être propriétaire nous permet de prendre soin plus de son habitat. Mais quant aux terres, c'est vrai que c'est compliqué de se voir vraiment comme 100% propriétaire et de se dire on en fait n'importe quoi alors qu'on est juste de passage et qu'il y a, d'autres êtres vivants qui sont là-dessus et qui n'ont rien demandé à personne et on s'en positionne comme des maîtres.
Ça, c'est l'aspiration. C'est l'aspiration qu'on a. On aspire à ça, on aspire à un plus grand partage du territoire. Moi, j'ai tendance à imaginer qu'avec justement tout le départ à la retraite des paysans qu'on rencontre et qui ne veulent pas être remplacés, parce qu'il y a plein de raisons de ne pas vouloir être paysan aujourd'hui, hein. Plein de raisons de ne pas vouloir être paysan. Ça peut être dur, administrativement c'est compliqué. Aujourd'hui, les fermes justement sont des territoires très peu résilients avec des endettements colossaux. Enfin, et probablement qu'on va se retrouver avec une fonction publique de la paysannerie par la suite. L'État va peut-être être obligé de reprendre la main là-dessus et donc on a une mise en commun de la terre à l'échelle nationale. Je ne suis pas forcément sûr que ce soit bien, le communisme a fait ça, c'était vraiment foireux et à la rigueur, on a une chance que ça marche à l'échelle des villes, ça. C'est une échelle locale qui est tout à fait acceptable. L'autre point que je voulais soulever, c'est que voilà, c'est ce à quoi on aspire. Mais dans l'immédiat, ce que j'observe, c'est que des lieux sont vachement mieux gérés par des gens qui veulent transmettre un patrimoine de qualité par rapport à des gens qui sont là.
Ou un patrimoine.
Et un patrimoine paternel, et vas-y, tout ce qu'on veut. Je ne sais plus qui parlait du patrimoine national. On a parlé de ça dans une réunion récemment. Donc oui, et justement, et peut-être que si on transformait ce patrimoine en matrimoine, ça changerait beaucoup de choses. Et que l'aspect nourricier serait vraiment intégré systématiquement. En tout cas, c'est une réalité. C'est une réalité. Je constate, dans des secteurs où on est en grande culture dégueulasse, conventionnelle, partout, on a un îlot qui est nickel, et c'est quoi ? C'est des gens qui ont certes beaucoup d'argent, beaucoup de choses, qui possèdent cet endroit et qui vont en prendre soin. Et certains mettent des parties en commun. Certains rendent des parties disponibles, et de toute façon, des paysans viennent les exploiter, ces lieux. Donc, de toute façon, c'est un des vrais écueils de cette période de transition qu'on est en train de vivre, c'est qu'on est en train de créer des fiefs partout, on est en train de créer des mini-baronnies dans tous les coins, que ce soit des baronnies de ce type ou que ce soit des baronnies simplement communautaires, avec des collectifs qui sont super au point, qui restent entre eux et qui se ferment aux autres. Ça existe aussi. Que ce soit des collectifs familiaux, que ce soit des collectifs hyper altermondialistes, dans le genre on s'aime tous, on est tous très beaux, mais bon, les autres, on les garde à l'écart. Il y en a toutes les sortes. Et à la rigueur, c'était un des trucs qui m'inquiète plus que le reste, tout ça.
De se renfermer sur soi. D'ailleurs, sur la mise en commun et le collectif nécessaire, Mathilde nous parlait des AMAP. Tu disais les AMAP, repensons aux AMAP. Et j'en profite pour rajouter aussi quelqu'un qui nous rappelait de ne pas oublier les plantes sauvages aussi dans notre. Alors, non pas dans le mix énergétique, mais dans le mix alimentaire. Les plantes sauvages sont aussi un vivier très important à découvrir ou redécouvrir pour compléter évidemment le fait qu'on rend la nature plus malléable à nos envies, à ce qui nous plaît le plus via l'agriculture, qu'elle soit bio, qu'elle soit agro, qu'elle soit voilà. On va bientôt terminer ce podcast. On a déjà bien dépassé, c'était passionnant, on n'a pas vu le temps passer ensemble, mais du coup il est temps de conclure. Je vais vous demander de pouvoir partager une dernière idée, Mathilde, Eric, que vous aimeriez avancer. Mathilde, je sais que ça te tenait très à cœur, par exemple de parler de la réalité du terrain, que oui il y a des bâches plastiques parce que en fait on passe à l'échelle et on n'a pas forcément autant de main d'œuvre aussi que ça pouvait être le cas ou que ça peut être le cas dans d'autres pays. Et puis, si vous avez aussi une ressource à partager supplémentaire, alors il y en a pas mal qu'on a partagé pendant ce podcast. On remettra tout dans la description au moment du partage. Mais si vous avez une dernière ressource et une dernière idée pour clôturer à nous partager, Mathilde et Eric, je vous en remercie pour nos auditorices. Mathilde, tu as commencé, tu peux terminer.
Ouais, ok. Moi, en réfléchissant à cette visio là ce soir, enfin ce podcast, je repensais aux trois principes de la permaculture que j'essaie de garder en tête. Donc prendre soin de la nature, prendre soin de l'humain et partager équitablement, parmi une myriade d'autres principes de permaculture. Et du coup, je pose l'intention, je formule le souhait que tout le monde puisse aller dans les fermes, mettre ces trois principes-là à l'épreuve du fonctionnement d'une ferme. Aller faire du woofing, aller faire de la cueillette, créer une AMAP, allez-y quoi, c'est le moment. Et puis quand vous n'êtes pas en train de faire ça et que du coup vous n'êtes pas non plus en train de tondre ou de labourer votre potager, vous pouvez récupérer ce temps libre pour lire un livre que moi j'ai beaucoup aimé. Alors j'ai toujours du mal à le vendre parce qu'il a un titre vraiment pas sexy. Collaborer avec les bactéries et autres micro-organismes, guide du réseau alimentaire du sol à destination des jardiniers. Alors c'est vrai, comme ça, il ne fait pas rêver, mais s'il y a un livre à lire, même quand vous n'avez pas fait une filière bac S, hein, moi j'ai fait ES et j'ai tout compris quand même, de Jeff Lowenfels et Wayne Lewis. Et Eric, je pense qu'il te plaira aussi parce qu'il parle beaucoup d'exemples sur la pelouse, en disant, mais c'est ouf les Américains, tout l'argent qu'ils dépensent dans la pelouse pour avoir Wisteria Lane, hein, la meilleure pelouse que le voisin. Et en fait, c'est des petits chapitres, un chapitre lombrique, un chapitre bactéries et tout. C'est un peu fastidieux. Du coup, essayez de le lire en parlant avec quelqu'un d'autre pour tout de suite essayer de l'enseigner à quelqu'un d'autre et en faire quelque chose de concret, quoi. Mais une fois que vous avez ces livres-là, vous ne voyez plus du tout le potager, les fermes, pareil. Et c'est ma ressource pas sexy, mais je serais très contente si d'autres personnes que moi arrivaient à le lire.
Moi, qu'est-ce que j'ai envie de dire ? J'ai envie de dire déjà d'oublier qu'il y a une solution. Il n'y a pas une solution, ça n'existe pas. Il n'y a pas une solution, il y aura un éventail de solutions. La biodiversité, ça passe aussi par la biodiversité sociale ou territoriale. Les solutions sont celles qui seront les mieux à appliquer localement à des problèmes locaux qui ne sont pas ceux du voisin, qui ne sont pas ceux d'une autre région. Et il va falloir comprendre ça. C'est vachement important parce que sur les réseaux sociaux, Ça clive énormément dès qu'on aborde un sujet. Plein qui rentrent dedans en disant « Non, la solution, c'est ça. Non, la solution, c'est ça. Non, arrête, quoi. T'as peut-être raison là, t'as peut-être raison là, t'as peut-être tort des deux côtés, mais il y a des solutions. Il n'y a pas… J'entends beaucoup la propriété, la non-propriété. C'est une vraie question. Je me pose la question. Moi, par exemple, je suis propriétaire terrien. J'ai 4 hectares à moi qui sont organisés de différentes façons. Il y en a un qui est sanctuarisé pour la nature. Il y en a un et demi qui fait mon jardin pédagogique et ma pépinière. Et j'en ai un autre qui est mis en partage. Voilà, un hectare et demi qui est mis en partage. On apprend à faire pousser de la terre. C'est des choses qui existent. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en commun ? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en commun ? Mettez en commun ce que vous pouvez mettre en commun. Et c'est tout, enfin, c'est assez simple. Et apprenez à faire sans eau aussi, c'est bien. apprenez à faire pousser sans eau, parce que ça va être un enfer. Et donc, apprendre à partager la ressource en eau, apprendre à l'économiser et apprendre à faire sans eau, quoi qu'on fasse. Ce que j'ai un bouquin à recommander, il y a quelqu'un qui me demandait tout à l'heure, voilà, il y a ça, notamment mon balcon permaculture pour les gens qui ont des tout petits jardins, qui donne des informations plutôt concrètes, puisque Hervé Chabert il a cultivé lui-même son balcon depuis des années et qu'il a des très très belles récoltes en appliquant des méthodes inspirées de la permaculture ou purement permacole. Et puis j'ai plus envie de vous dire de lire carrément autre chose, de lire des bouquins libertaires, de lire comme si nous étions déjà libres de David Graeber ou des choses comme ça qui vont permettre juste de défricher un peu la pensée.
Super. Et eh ben merci pour ces dernières paroles. Je vais rien rajouter parce que c'était parfait. Y a rien à ajouter. Merci infiniment à vous deux, Eric et Mathilde, de vous être rendus disponibles dans ces temps où on est tous sursollicités. Et quant à moi, je vous retrouve toutes et tous, eh bien d'ici un mois pour la prochaine conférence et donc podcast Edeni consacré toujours à des sujets d'intérêt général et puis toujours à nos formations aussi pour aller un petit peu plus loin autour de la mécanique des systèmes, autour des neurosciences, de la manière de communiquer les uns les autres et d'avoir justement cet aspect holistique, ces enjeux pour éviter de penser en solutions uniques et en écueils de colonnes permanentes. Donc à bientôt sur edeni.fr et dans tous nos autres médias. Merci encore une fois à vous. Bonne écoute, bonne ressource, bonne lecture et cultivez bien votre jardin.